Vous êtes sur Studio ZEF et c'est l'heure de Feuilles Vives, votre émission de reportage entre ville et campagne. Troisième feuille vive aujourd'hui de reportage pour aborder comment les collectivités locales impliquent les habitants et les agriculteurs dans l'aménagement de leur territoire. Un dialogue ville-campagne sous le signe de l'échange entre représentants et représentés, entre centres de pouvoir urbains d'une part, agriculteurs et habitants ruraux de l'autre. Deux ensembles aux intérêts parfois divergents et qui peinent souvent à s'entendre et à se comprendre. Pour ce faire, nous allons nous pencher sur les PLUI pour plans locaux d'urbanisme intercommunaux. De nouveaux documents d'urbanisme actuellement en cours d'élaboration à la communauté d'agglomération de Blois et à la communauté de communes du Grand Chambord, les deux territoires qui vont nous intéresser durant la prochaine demi-heure. Les plans locaux d'urbanisme, ou PLU, naissent en 2000. Ils imposent aux communes de planifier leur projet d'urbanisme en fonction d'un projet d'aménagement et de développement du territoire. Le but, éviter l'urbanisation sauvage aux dépens des espaces naturels ou agricoles, par exemple, et tenter d'impliquer les citoyens par des réunions et des enquêtes publiques. Planifiée sur plusieurs années, l'action publique régie par le PLU est ainsi plus lisible, transparente et cohérente, en dépit des alternances politiques à l'échelon local. Pas question pour le nouveau maire d'aller à l'encontre du projet de territoire établi par la précédente équipe municipale, à moins, bien sûr, d'établir un nouveau PLU. Vous suivez toujours ? Bon. Depuis 2010, le gouvernement tente de généraliser la pratique des PLU à l'échelon intercommunal, d'où la création des PLUI. Mais c'est seulement depuis cette année qu'ils se multiplient. Aglopolis et Grand Chambord en sont au début du processus d'élaboration de leur PLUI qui doit prendre effet en 2020. L'agglomération blésoise recouvre un territoire vaste et divers, une quarantaine de communes, les unes très urbaines, les autres très rurales. L'urbanisation à Vineuil et au nord de Blois, par exemple, entre souvent en conflit avec les intérêts des agriculteurs, habituellement les parents pauvres de l'aménagement du territoire. Pour mieux prendre en compte leurs besoins, l'aglo a missionné la Chambre d'agriculture pour recueillir les remarques des agriculteurs.
Notre rôle en fait à la Chambre d'agriculture, c'est de veiller à ce que les différents projets qui peuvent être envisagés sur les territoires prennent en compte les enjeux agricoles.
Valérie Perrin, en charge du suivi des documents d'urbanisme à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher.
Alors sur le territoire de l'agglomération de Blois, je pense que c'est ce que vous évoquez. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle un PLUI qui est engagé, un PLU intercommunal qui est engagé par la communauté d'agglomération Aglopolis, donc sur les 48 communes du territoire. Et donc en fait on a deux rôles, on a un premier rôle, comme je vous le disais, de personnes publiques associées, donc on va être associé à un certain nombre d'étapes. Et puis par ailleurs, Aglopolis nous a confié le rôle de réaliser le volet agricole, ce qui nous permet justement de bien préciser les différents enjeux agricoles avant que les choix soient faits sur le territoire. Ça se traduit notamment par une carte sur l'ensemble du territoire d'Aglopolis où on essaie de préciser ces points particuliers. Donc notamment, ce qui est important au niveau de l'agriculture, c'est déjà les sites d'exploitation. C'est un peu le centre névralgique des exploitations. Par ailleurs, on a repéré toutes les parcelles qui étaient cultivées. Et dans ces parcelles cultivées, on a notamment mis en évidence certaines parcelles près des zones de bourg qui présentaient peut-être des enjeux particuliers, soit parce qu'elles sont en zone AOC viticole, soit parce que c'est des zones particulièrement bien fonctionnelles pour l'agriculture, soit parce que c'est des sols intéressants. Et puis on a aussi indiqué qu'un point vraiment très important souvent pour les agriculteurs, c'est la question des circulations agricoles, puisqu'il y a un certain nombre de voies qui traversent les villages, les bourgs, qui sont empruntées par les engins agricoles. Il arrive bien entendu qu'il y ait des aménagements prévus pour réduire la vitesse, qui est tout à fait compréhensible, mais ça permet justement de mettre en évidence que sur ces voies-là, il est important aussi de veiller à ce que les engins agricoles puissent toujours passer, parce que sinon ça peut créer des difficultés, ça peut faire en sorte que des fois certaines parcelles après ne puissent plus être desservies et ne puissent plus être cultivées. Bien entendu, dans les choix des zones à urbaniser ou dans les choix d'équipements, il y a tout un tas de paramètres qui sont pris en compte. Et là, en mettant en évidence les zones à enjeux agricoles, ça permet de dire, tiens, cette zone-là, il y a À la rigueur, ça pose pas trop de problèmes parce que c'est déjà tout urbanisé. Par contre, là, il y a vraiment des enjeux agricoles et ça veut dire que si on doit malheureusement aller dans ces secteurs-là, il faut essayer de trouver des solutions pour peut-être compenser les agriculteurs, en tout cas trouver des solutions. Idéalement, ne pas toucher ces zones, mais si on les touche, d'essayer de concerter, de trouver des solutions pour compenser pour l'activité agricole qui serait concernée. On a envoyé à tous les agriculteurs de l'agglomération un courrier, les avisant justement qu'il y avait une démarche de PLUI, en quoi ça les concernait, parce qu'effectivement pour eux ça peut leur paraître des fois un petit peu obscur. Et puis on les a invités aussi à nous faire part de leurs suggestions et également de leurs projets, parce qu'effectivement des fois certains agriculteurs ont des projets de construction ou des projets autres, et il est important de les connaître de telle façon à ce que le futur document d'urbanisme qui sera élaboré n'empêche pas ces projets et qu'on puisse, en tout cas, au moment de l'élaboration, mettre en avant ces projets pour voir comment on fait en sorte qu'ils puissent se faire. Donc ça peut être des projets de tourisme, ça peut être des projets de changement de destination de bâtiment, ça peut être des projets nouveaux, de nouvelles activités.
Toute la journée, Valérie Perrin a accueilli dans son bureau des agriculteurs des environs de Blois pour recueillir leurs remarques, projets et inquiétudes. Jean-Paul Boiron est céréalier à Saint-Sulpice-de-Pommeraye, tout proche des premiers contreforts de l'agglomération blésoise. Avec une zone sud déclarée inondable et donc inconstructible, c'est en direction du nord que l'urbanisation devrait se poursuivre. D'où l'importance de bien communiquer sur ses intérêts en vue du prochain PLUI, d'autant que pour Jean-Paul, l'agglo est de plus en plus sensible aux demandes des agriculteurs.
Il y a des terrains qui peuvent être disponibles. Et de préférence construire sur des terres qui n'ont pas d'enjeux spécifiques agricoles, essayer de conserver les terres, les meilleures terres, et puis celles qui ont un enjeu assez important pour les agriculteurs.
C'est quoi les terres à enjeux spécifiques?
Déjà, c'est les terres qui sont autour des sites d'exploitation. Essayer de garder le maximum de terres autour des sites d'exploitation. Parce que malgré tout, sur les sites, on a des fois des nuisances, un peu de bruit. Et puis après, c'est par rapport aux formes d'îlots. Il faut éviter de couper des îlots en deux. Même si des fois la terre au niveau qualité n'est pas forcément bonne partout, il faut éviter de couper des îlots.
D'accord. Oui, c'est des parcelles d'un seul tenant finalement qu'il faut éviter de couper en deux.
Aujourd'hui, il faut avoir une surface assez importante et surtout le moins de contraintes possibles. En agglomération, c'est un peu ça notre problème, c'est qu'il nous faut plus de temps, à limite pour cultiver une centaine d'hectares que 150 hectares remboursés. D'accord. Et donc plus de charges et moins de rentabilité. Donc c'est un petit peu ça aussi notre problème en périurbain, même en grande culture. On a plus de charges et donc il faut essayer de garder des beaux îlots. Et puis, à la limite, d'essayer de construire de préférence dans les terres à moins bon potentiel. Et puis qui sont déjà, il y a certaines terres, même des bonnes terres qui sont enclavées dans des maisons. Donc là, il n'y a plus d'intérêt à les cultiver. Il vaut mieux essayer de boucher toutes ces dents creuses. Et ça évite un peu les problèmes après qu'on peut avoir avec les habitants par rapport aux traitements qui sont faits.
D'accord. J'imagine aussi pour limiter la circulation sur la voirie, autant avoir des terres qui sont d'un seul tenant que d'éparpiller.
Parce que malgré tout, quand on sort des champs, l'idéal c'est de pouvoir sortir sur un chemin et non pas sur une route, parce qu'on met forcément de la terre après sur les routes, et ce qui pose toujours des problèmes de cohabitation avec les usagers.
Après les réunions publiques du printemps dernier, les agriculteurs de l'agglo seront de nouveau consultés en octobre prochain. Le plan final devrait être adopté en 2020 après une ultime enquête publique. Affaire à suivre donc. La communauté de communes du Grand Chambord doit elle aussi élaborer son propre PLUI, un processus administratif abscon pour les citoyens et un échelon intercommunal souvent considéré comme éloigné de leur quotidien. Pour impliquer les habitants dans l'aménagement de leur territoire, l'intercommunalité a fait appel au collectif Dérive, spécialisé dans la conception et dans la réalisation de chantiers participatifs. Trois paysagistes et un architecte, accompagnés de vidéastes et d'un illustrateur, qui ont l'été dernier parcouru les 17 villages qui composent le Grand Chambord. Un périple de 3 semaines à vélo pour aller à la rencontre des habitants, recueillir leurs histoires et prendre des photos à travers un cadre géant tracté comme une charrette par nos vaillants cyclistes. Le but, tirer l'essence de ce territoire étendu et composite pour prévoir des constructions qui correspondent à l'identité locale et aux besoins des habitants. Le résultat de leur exploration a d'abord fait l'objet d'une exposition, son titre « L'Odyssée Grand Chambord », visite guidée par Jam Boucard, paysagiste du collectif Dérive et ancien étudiant de l'école de la nature et du paysage de Blois.
Le parti pris de cette exposition, c'était de dire, on a noté que la communauté de communes était un territoire vaste et complexe et hétéroclite. Donc là, par exemple, ce premier panneau, il témoigne de ce qu'on a pu voir à travers le cadre, justement. C'est une espèce de mosaïque des choses qu'on a pu voir et qui nous ont marqué dans ce paysage, qui vont de choses très, très anecdotiques jusqu'à des choses qui ont fortement imprégné l'histoire locale.
Est-ce que tu peux en présenter quelques-unes et me dire pourquoi avoir trimballé un cadre derrière vous ?
Alors, le cadre, ça nous a servi à nous à focaliser, comme je disais, à faire le point sur des choses qui sont soit des grandes composantes du territoire, comme on peut voir là, des composantes tantôt agricoles, tantôt un peu plus industrielles, je ne sais pas si on peut parler comme ça en parlant de la centrale nucléaire, mais voilà, tantôt plus naturelles, avec le bord de Loire, avec des forêts, tantôt beaucoup plus sociales, avec des parties pavillonnaires, des parties de centre-bourg, des parties beaucoup plus touristiques. Voilà, c'est ce cadre-là qui nous a servi à focaliser notre attention sur les différents caractères du territoire. On verra dans l'expo qu'il y a des choses qui reviennent. Là, je vois par exemple dans le caractère agricole, il y a les serres agricoles et les serres tunnels qui sont des formes qui reviennent souvent. Il y a des thèmes qu'on va retrouver sur les panneaux qui concernent les reliefs, les buttes, la végétation bien sûr, tout ce qui est lié au monde de la chasse. Enfin voilà, tout ça c'est des choses qu'on a pu recadré dans notre charrette. Ce parcours, il était jalonné donc de 17 étapes dans 17 villages en 17 jours. Et dans chaque village, on arrivait chaque soir pour rencontrer les habitants. C'est-à-dire qu'il y avait une réunion publique d'organiser, qui avait été organisée par la communauté de communes et aussi par les communes elles-mêmes, pour rassembler des gens qui n'étaient pas forcément au courant de ce qu'on venait leur demander, mais en tout cas qui étaient volontaires pour parler et notamment parler du territoire dans lequel ils habitent. Et nous, on les a beaucoup questionnés sur qu'est-ce qui fait l'identité de leur territoire, qu'est-ce qui fait que leur territoire ressemble à ce qu'il est et non pas à un autre territoire. Donc on a interrogé des enfants, des anciens, des actifs, des inactifs, des paysans, des urbains. Enfin voilà, c'est toute la diversité qui nous intéressait d'interroger. Voilà, et le but de ces réunions aussi de fin de journée à vélo, c'était aussi de faire réagir les gens sur ce qu'on avait vu dans la journée et sur les étapes précédentes, mais aussi de nous orienter sur l'étape d'après. C'est-à-dire que le soir d'après, on devait être dans un autre village et on demandait aux habitants de nous donner des conseils sur le chemin à emprunter pour embrasser au maximum les composantes du paysage et du territoire. Et puis, ne pas passer à côté d'un truc qu'il faudrait absolument voir et qu'on ne connaît pas quand on n'est pas du coin. Voilà. Voilà, donc c'est eux, d'une certaine manière, c'est les habitants du territoire qui ont fait comme ça notre itinéraire.
Après leur périple l'été dernier, les membres du collectif Dérive sont retournés à la rencontre des habitants, cette fois pour évoquer les chantiers participatifs à venir. Des constructions en bois en général, qui vont habiter quelques lieux emblématiques du territoire du Grand Chambord. Premier chantier, mi-juillet, au pont d'Arian, à mi-chemin entre Tours-en-Sologne et le château de Ville-Savin. Ce soir, le collectif Dérive convie les habitants à une réunion publique à Tours-en-Sologne, justement, afin de définir ce qui sera construit à cet endroit. Alors que nous sommes en route pour la réunion, Guillaume Camper, autre paysagiste du collectif, accepte de s'arrêter quelques minutes au bord du Beuvron pour nous présenter ce lieu symbolique.
Là, on est à peu près sur le site. Alors le site, il va en gros du pont là, ancien qu'on voit un peu au fond. Il y a la route qui passe, qui est la route principale en fait, hein, qui rejoint le château au village. Et puis là, on est sur un peu une route de traverse assez empruntée en vélo. Et en fait, là, il y a un peu un mythe qui nous a été raconté par les gens qui étaient, qu'on a pu rencontrer sur les us et coutumes il y a un certain nombre d'années, en tout cas sur ces plages relativement naturelles et sur ce bord d'eau. Donc effectivement, pour nous, c'est un peu l'occasion de s'installer dans un endroit qui est à la fois chargé de mémoire et à la fois qui a une certaine qualité à la fois environnementale, à la fois paysagère et puis d'articulation en tout cas dans ce village-là. Donc voilà, on a un cours d'eau qui est quand même relativement doux, on a un peu de sable, on a des grands arbres, là, on a un frêne énorme derrière. Et donc tous ces potentiels-là font que on a envie de s'installer là et puis de commencer à relancer, en tout cas de créer une espèce de dynamique dans cet endroit qui était dans le temps jadis, considéré comme très actif et des points de rencontre assez importants. Intervillage aussi, c'était ça qui était intéressant. C'est que cet endroit-là nous a été désigné par plusieurs villages autour comme quelque chose d'important. Donc du coup, dans la démarche qu'on a eue, c'était à chaque fois de se dire, là il y a un point de jonction, en tout cas des usages, essayons de faire quelque chose à cet endroit-là.
D'accord, voilà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on faisait ici
Avant, il y a eu plein de choses. C'était l'endroit amoureux premier, donc c'était aussi un truc qui était intéressant pour nous. C'était de se dire, qui était pas mal aussi dans les questions qu'on posait régulièrement. C'est aussi pour sortir un peu les gens de leurs contraintes. On revenait sur des choses extrêmement basiques, sur notamment les endroits amoureux. Et ça, c'en était un très important. Et c'était aussi l'endroit où on venait se baigner. C'est l'endroit où on venait pique-niquer au bord de l'eau. C'est l'endroit où vraiment on avait une interaction avec la rivière. Chose qui n'est pas forcément le cas partout ailleurs. Donc forcément pour nous ça nous interpelle, et sachant qu'il y a un peu moins d'usage maintenant de la rivière qu'avant, c'est peut-être une occasion de se rapprocher en tout cas de cet élément là qui est constitutif important du territoire.
Ok, et qu'est-ce qu'on peut envisager ici comme construction?
Là, ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'il faudrait prendre à la fois, il faut une notion de confort, à la fois, il faut une notion de pouvoir se poser, donc le pique-nique, la grande table qui viendrait là, prendre peut-être un peu de hauteur, ça peut être important aussi pour se dégager du plancher des vaches, pour le coup, et puis de sortir du lit de la rivière, et à la fois avoir une vue la meilleure possible, en fait, sur la longueur de cette rivière, c'est-à-dire pouvoir la contempler d'un bord et de l'autre, et puis d'amont en aval quoi. Donc c'est un peu ça, sachant qu'on a des arbres tout autour, ça pousse quand même l'envie de prendre de la hauteur quoi. Donc après voir comment tout ça se développera avec les gens qu'on va rencontrer, mais en tout cas c'est un peu les directions qu'on a envie de leur donner là, et puis après on verra ce que ça donne quoi.
D'accord, et est-ce qu'il y a une construction, un type de construction précis en lien, je sais pas, avec les paysages, les traditions d'ici?
En tout cas, nous, on a bien envie de détourner des choses qu'on a pu voir ailleurs dans la Sologne. Hein. C'est-à-dire que les cabanes d'affût, c'est un truc qui nous a pas mal questionné. Et puis surtout la façon dont on nous a parlé. C'est-à-dire que à la fois c'était l'objet de la chasse, mais à la fois pour certains chasseurs, c'est le lieu de méditation quasiment parce qu'ils passent leur journée là. Et puis pour certains, finalement, la chasse, c'est qu'un prétexte pour être juste seul dans son territoire et à regarder des trucs, pas forcément à tirer sur quelque chose, quoi. Donc il y a, en tout cas, cette notion de contemplation, pour nous, elle était assez évocatrice. Et puis finalement, de prendre de la hauteur comme ça en détournant un objet qu'on peut observer sur le territoire mais qui n'a pas du tout la désignation qu'il va en avoir maintenant, c'est aussi quelque chose qui nous motive à chaque fois dans les projets. Donc voilà, je pense que ça risque de prendre cette direction-là. Après, si ça ne prend pas d'écho, par exemple ce soir, la forme va se modifier aussi en fonction de ça.
Car pas question d'imposer une installation aux habitants. Du périple initial au produit final, ceux-ci sont régulièrement questionnés, consultés et appelés à participer. Une vingtaine d'entre eux sont présents ce soir à Tours-en-Sologne pour discuter de la réalisation à venir. On échange sur les caractéristiques physiques du lieu, sur ses anciens usages et sur ses envies. De l'affût de chasse, les débats en viennent rapidement à une table de pique-nique en hauteur, surplombant le Beuvron.
Une construction, une architecture qui interpelle, qui provoque l'envie d'aller voir, qui pose question.
Une des provocations, c'est une table très longue.
Ouais.
Parce qu'effectivement, les tables de sur les aires de pique-nique, enfin les tables, elles sont standards.
C'est pas la table en hauteur, c'est aussi...
C'est plus exercice. Maximum. Et là, le fait qu'elle soit longue, alors du coup, ça, c'est vrai que ça donne plein d'idées qu'elle soit longue en hauteur avec des filets ou des hamacs en dessous, je trouve que...
Faut qu'elle soit en hauteur, je pense, parce que quand on est sur la route, on est un peu trop bas. Donc faut quand même élever un peu cette
hauteur.
Peut-être plusieurs niveaux, oui, effectivement. En tous les cas, il faut qu'à un moment donné, il y ait un peu de hauteur.
Historiquement, c'était un endroit qui a eu son heure de gloire et puis qui malheureusement maintenant c'est plus ça quoi. Bon, il y a je sais pas combien, 40 ans, c'était l'endroit où on venait camper, pique-niquer, jouer, se baigner. Bon, il y avait peut-être moins de circulation, moins de tourisme aussi. Et c'était pas tellement éloigné de Blois, donc ce qui fait que quand même les citadins venaient, c'était leur endroit de campagne aussi où ils venaient. Il y avait des comités entreprises qui organisaient des fêtes. Donc c'était un lieu d'échange, de partage, de convivialité autour d'un café qui c'est au Pont d'Arian, chez Solange, qui était très connu. Et voilà, bon, les gens en profitaient bien, quoi. Et donc c'est un petit peu dommage que ça n'existe plus, quoi, que ce soit simplement un endroit qu'on aime bien parce que c'est un bel endroit. Bon, ça tombe bien parce que le propriétaire a justement envie de retrouver un petit peu cette ambiance-là. Donc peut-être que les propositions de nos amis là, vont faire en sorte que les... ils vont nous trouver des idées originales pour que ce soit à nouveau un lieu attractif et un lieu où les gens aiment se rencontrer et partager. Voilà.
C'est jusqu'à quelle époque ça
Oh là, moi je sais pas, jusqu'à dans les années, c'est vieux quand même, les années 70, quoi, 70, d'accord. 75. Moi c'était mon enfance, après ça c'est un petit peu tari tout ça.
C'était Christian Molereau, habitant de Tours-en-Sologne, présent à la réunion publique de mai dernier. Le chantier participatif des Ponts d'Arian à Tours-en-Sologne se tiendra à partir du 17 juillet prochain. Avant cela, sa forme finale sera déterminée par les membres du collectif Dérive selon des impératifs de faisabilité, de budget, mais aussi en fonction des remarques des habitants dont vous avez pu entendre un extrait. Des premiers coups de pédale en septembre dernier à la réalisation du chantier cet été, c'est l'implication des habitants qui a sans cesse défini et fait évoluer le projet. Cet aspect est crucial pour le collectif Dérive qui tire son nom de la théorie de la dérive, un concept élaboré par l'écrivain révolutionnaire Guy Debord qui préconise d'abandonner ses préjugés et autres déterminismes socioculturels pour aller à la rencontre de l'autre. Et voilà comment un groupe d'urbains diplômés se retrouve à parcourir un territoire rural à la rencontre de ses habitants. Explication et mot de la fin par Guillaume Camper.
Pour faire simple, c'est en gros une façon d'être dans le territoire. Tu vas d'un point A à un point B, ça t'en est sûr, mais tu ne sais jamais trop quel chemin tu vas prendre pour aller jusqu'au point B. En fait, et c'est ça qui nous intéressait, en fait, parce que c'est un peu notre recherche, c'est qu'on sait à peu près là où on veut aller, mais on ne sait pas par quel chemin on va passer. Et en fait, c'est ça qui nous intéressait, en fait. Enfin, tu vois, c'est ce côté de... et c'est un peu ce qui s'est passé là ce soir, c'est... tu lances une idée, tu penses aller dans une direction, en tout cas tu sais à peu près la direction que tu veux atteindre, mais l'interaction avec la population que tu rencontres fait que tu vas pas prendre le même chemin que si tu étais tout seul derrière ton calque et ton dessin ou derrière ton ordinateur. En fait, il y a forcément plein d'éléments qui vont s'agréger à ton bateau pour t'amener un peu plus loin sur l'autre rive, quoi. Donc ça c'est intéressant pour nous.
D'accord, et quand on est dans des projets comme ça de rencontre directe des citoyens, notamment dans des territoires ruraux, quand on a un historique personnel soi-même et des références plutôt urbaines, est-ce que cette barrière urbain-rurale elle n'existe pas du tout, ou si elle existe, comment est-ce qu'on la contourne ou on la surmonte?
Non, il n'y a pas de... Enfin, moi je ne crois pas à la distinction ville-campagne, en tout cas c'est... Il y a des... une forme de vécu qui est un peu différente, mais qui, justement, si tu es ouvert à l'autre, en tout cas l'altérité, fait que, justement, tu t'apportes des choses et tu t'agrèges des choses. C'est justement de ne pas avoir peur de l'autre qui fait que cette soi-disant fracture ville-campagne, elle existe. Mais si tu n'as pas peur de l'autre, si tu vas vers lui, a priori, et si tu as envie d'apprendre quelque chose, forcément, l'écart va se réduire et puis on va se trouver des terrains d'entente, en fait. Mais par contre, c'est d'arriver à être suffisamment ouvert pour justement trouver un sujet commun et puis commencer à en parler, être à l'écoute. Et puis tu vas rebondir sur des choses et chacun va pouvoir s'apporter, en fait, va pouvoir s'agréger. Quand on nous a exposé le projet, on nous a dit qu'il y a 17 communes qui ont du mal à dialoguer les unes avec les autres. Quels moyens de débat on fait ensemble l'un avec l'autre? Déjà, si le premier moyen pour nous, c'était de se dire bah, comment je vais de chez moi à chez mon voisin, donc déjà quel pas je fais vers l'autre en tout cas, et quel chemin j'utilise. Et puis une fois que tu arrives au point B qu'on t'a indiqué la veille, tu expliques à l'endroit où tu es arrivé, par où tu es passé, comment les autres t'ont transmis et comment tu vas transmettre à ton voisin. Donc on a une espèce de cadavre exquis comme ça sur le territoire qui du coup te recompose la communauté d'ensemble en fait, des gens et du bassin de population que tu trouves là. Et finalement la vie c'est un peu ça, quoi. C'est un peu de tendre la main vers quelqu'un, tu la prends ou tu la prends pas, mais si tu la prends, bah, elle t'emmène encore un peu plus loin. Donc c'est d'essayer de trouver un peu cette force d'entraînement en fait, qui est de la rencontre et la façon dont tu rebondis d'un personnage à l'autre, quoi. Donc la fracture ville-campagne est née avant tout d'un manque de lien dans les deux sens en fait. Est-ce que je suis suffisamment à l'écoute de la personne qui arrive de loin, et est-ce que moi quand je vais un peu plus loin que mon territoire propre, j'ai la capacité d'être à l'écoute de ce qu'on me raconte et de ce qu'on est. Et ça dans les milieux urbains denses en fait on la retrouve vraiment, cette notion de quartier, la façon dont je, quand je sors de mon quartier, je suis déjà à l'extérieur de chez moi et j'ai du mal à rencontrer l'autre. Donc les conflits entre quartiers.
Donc les problématiques que vous rencontrez sur des territoires très ruraux comme ici ou très urbains, pour vous c'est...
Pour moi c'est exactement, enfin c'est similaire en fait. Enfin c'est juste des problèmes humains en fait. C'est comment je suis quand je suis pas dans l'endroit que je maîtrise en fait, et comment j'arrive à dépasser cette frontière psychique finalement pour aller à la rencontre de l'autre. Et donc ça, on les a tous en fait, ces barrières là. Bah c'est juste que je fais le pas de plus en fait, ou le pas en tout cas avec suffisamment d'ouverture d'esprit pour que l'autre on arrive à se rencontrer en fait. C'est la façon dont t'es un peu ouvert au monde en fait.
Feuilles vives, c'est fini pour aujourd'hui. Dans cette émission disponible sur studiosf.fr, nous nous sommes intéressés à la façon dont les intercommunalités impliquent leurs citoyens ruraux et leurs agriculteurs dans leurs projets d'aménagement du territoire. Un moyen de renforcer l'adhésion de ces populations à une action publique souvent jugée comme peu compréhensible et éloignée de leurs préoccupations quotidiennes. Alors, simple coup de com' ou véritable effort de démocratie directe, ces initiatives, toutes embryonnaires et imparfaites qu'elles sont, semblent salutaires pour lutter contre un sentiment d'isolation et d'abandon qui fait le lit de formations politiques aux discours creux et aux fondements idéologiques pour le moins nauséabonds.
Quelle belle vallée! Avec ses fermes et ses fermiers, avec ses graines et ses greniers, bondé. Quelle belle vallée, avec ses cucurbitacées, avec ses cultures labourées l'été.
La saison fond le camp
à travers toutes les saisons.
Le ciel fond
tout en larmes à chaque coup de feu d'une arme.